Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous écoutez 6ème Science. S'il te plaît, Alexa. Merci, Alexa. Depuis que j'ai à la maison des enfants en âge de comprendre ce qu'est la politesse et surtout prompte à m'imiter, l'assistant vocal qui trône dans la cuisine est traité avec la même déférence que les autres membres de la famille. Dans le salon, c'est le robot aspirateur, qui a affectueusement été renommé Polochon. Il faut bien se rendre à l'évidence, nous vivons au milieu des robots. Des robots limités, certes, qui sont aussi éloignés des androïdes vus au cinéma que le singe l'est de l'homme, mais des robots tout de même. Et s'il a fallu des millions d'années d'évolution pour aboutir à Homo sapiens, la machine à visage humain n'attendra pas aussi longtemps. Il vaut mieux nous y préparer. Mi-homme augmenté, mi-expert en nouvelles technologies, data et IA, Arnaud Devillard de la rédaction de Science et Avenir est précisément là pour nous aider à parler robots et nous expliquer comment nous accommoder de cette drôle de compagnie faite de puces et de boulons, derrière laquelle on trouve, comme toujours, des hommes aux commandes. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Tu ouvres ton article en transportant le lecteur dans les allées du CES 2022, la grande messe des dernières technos qui se tient chaque année à Las Vegas. Cette année, les visiteurs pouvaient y croiser plusieurs robots humanoïdes, même si tu ne t'es pas rendu sur place. À quel point leur technologie te paraît-elle poussée ?
Alors c'était intéressant parce que c'est un robot qui avait fait sensation avant même d'arriver au CES parce qu'il avait une petite vidéo de présentation qui avait été faite en décembre, un petit mois avant. Il s'appelle Ameca et c'est un robot d'une société anglaise qui s'appelle Engineer Art et qui fait des robots d'accueil, c'est-à-dire dans des événements, dans des musées, vous avez des robots qui accueillent les gens, qui disent bonjour, qui donnent des prospectus, etc. Ça se fait pas mal. Sauf que là, ce robot a une particularité, c'est que généralement, les travaux sur les robots sont très concentrés sur la mécanique des mouvements, des gestes, le fait qu'ils marchent ou qu'ils bougent les bras, les mains. Là, ils ont peaufiné quasiment à la perfection les expressions faciales, c'est-à-dire les mouvements de stupeur, de joie, d'étonnement, donc les yeux qui s'écarquillent, la bouche qui s'ouvre en grand. Ça fait vraiment sensation parce qu'on avait rarement vu un tel niveau de perfection. Et là, en l'occurrence, le robot était planté sur le stand de la société et il réagissait au passage des visiteurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un passait ou le regardait, il y avait une caméra qui est embarquée dans le robot qu'on ne voit pas et il repérait que des gens le regardaient. Donc du coup, il se tournait vers lui, il ouvrait les bras, il le fixait, il s'étonnait, il avait des expressions un peu comme s'il voulait engager la conversation. Enfin, c'était très, 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 très étonnant. Ça, c'est des travaux très, très poussés qui sont essentiellement des travaux de mécanique, quoi, finalement. Mmh. On imite les muscles faciaux.
Même si j'imagine qu'il faut derrière du gros travail d'IA ou même de lecture des expressions
alors
faciales.
Alors là, en l'occurrence, oui, celui-là moins que d'autres, parce que là, en l'occurrence, il y avait quand même un peu d'IA dans la mesure où, effectivement, il repérait le passage des gens. Donc, il réagissait en fonction du passage des gens. Mais disons qu'il n'avait pas une expression qui était calée sur l'expression des gens.
Oui.
Par contre, il existe un autre projet qui ressemblait un peu, c'est juste une tête humanoïde qui s'appelle Eva, projet de chercheur américain. Et là, c'est une tête, voilà, pareil, avec une peau synthétique sur une tête mécanique. Et là, il y a une vingtaine, 25 moteurs, je crois, qui animent exclusivement des muscles faciaux, un peu comme je viens de décrire pour Ameca. Et là, la couche supplémentaire, c'est que là, en l'occurrence, il y a une IA. C'est-à-dire que le robot est conçu pour non seulement bouger les muscles de manière très fluide, très humaine, voilà, disons le mot, mais en plus, il le fait de manière automatique, c'est-à-dire en fonction de ce qu'il voit en face de lui. Pour résumer, il imite l'expression faciale d'un être humain en face de lui. C'est-à-dire que si vous êtes en face et que vous souriez, il va sourire. Si vous êtes en face de lui et que vous froncez les sourcils, il va froncer les sourcils. Mais tout ça, il le fait tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il a été entraîné par ce qu'on appelle le deep learning, par des histoires de bases de données. Il a appris quel moteur activer pour obtenir telle expression faciale. Il se voit lui-même faire
son expression faciale.
Il s'autocorrige, voilà, exactement. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas si souvent, ça.
Mais quel est le but de ces entreprises ? Enfin, est-ce que c'est d'aller vers la création des réplicants de Blade Runner ou les androïdes de Westworld pour en peupler des parcs pour adultes ? Enfin, quelle est l'intention derrière tout ça ?
Alors, plus prosaïquement, effectivement, à part le côté, comme je disais, robot d'accueil, avec un côté un peu ludique, mais...
Marketing,
voilà, exactement. Et à la fois, aspect preuve de concept, c'est en gros une démonstration de force technologique, c'est que voilà, la société, ça sert aussi un peu d'affichage. Mais plus prosaïquement, ces boîtes se projettent dans l'idée qu'un jour, ou, enfin c'est même déjà un peu le cas, les humains vont de plus en plus vivre, et quand je dis vivre, c'est collaborer, être accompagné de robots dans différents contextes, hein, que ce soit des robots hospitaliers, d'aide à domicile, et surtout, ce qui est déjà le cas, des robots professionnels en usine, ce qu'on appelle des cobots. Donc c'est des robots qui collaborent, collaboratives robots. Et dans ce cadre-là, il faut savoir créer des interactions un peu fluides. Il faut arriver à créer des relations entre humains et robots où l'un et l'autre ne se gênent pas. Mmh. Et donc du coup, voilà, c'est dans ce cadre-là que ces recherches se développent, dans une optique où il y aura bientôt une cohabitation un peu plus, on va dire, quotidienne avec le robot. Alors robot au sens large, hein, ça peut être des bustes, ça peut être une tête, ça peut être juste un bras articulé, et on le verra peut-être, ça peut être aussi juste des algorithmes, quoi.
Ouais, ou même des chiens.
Hein. Enfin, ou des animaux robots.
Ce que tu me dis, ouais, ça me fait penser, je crois que c'était Aiwo, c'est ça, le chien japonais qui tenait compagnie à des personnes âgées au Japon.
Oui, bien sûr. Oui, ben, au Japon, c'est très développé, ce genre de réflexion.
Oui, il y a même des enterrements.
Des enterrements, il y a des mariages ou des... Une chercheuse m'a expliqué ça, il y a une pesanteur sociale qui fait que les gens, notamment quand ils sont jeunes, ne vont pas essayer de chercher un partenaire, un mari ou une femme, tant qu'ils n'ont pas atteint un certain statut social, parce que sinon ils ont honte. Donc du coup, beaucoup de gens sont seuls. Et pour compenser, ben, louent ou achètent des robots, mais vraiment des robots de vie, quoi, pour vivre avec un robot. Donc ça aussi, ça existe. Hein. Il n'y a pas que les usines.
Et c'est vrai qu'au moment de me poser un peu sur ce sujet, j'avais en tête l'image de l'androïde développé par l'Arabie Saoudite, Sophia. Elle était assez craignose quand même, Sophia. Hein. Elle ressemblait plus à un coup marketing, on l'a dit tout à l'heure, qu'à une prouesse techno. Imiter l'humain de façon convaincante, on peut le dire, c'est pas donné à tout le monde. À quels obstacles les entreprises de la tech se confrontent-elles aujourd'hui, sachant qu'on est encore loin du petit David, hein, l'enfant dans AI, le film de Steven Spielberg, ou Ava dans Ex Machina, là encore un grand film.
Oui, alors effectivement, on est assez loin, parce qu'en fait, quand on pense robot, on pense tout de suite à informatique, techno, mécanique, etc. Or, en fait, c'est vraiment à la croisée de la mécanique, de l'automatique, mais aussi des neurosciences et de la psychologie. Pour arriver à faire un robot, on va dire, performant, avec un aspect humanoïde convaincant, c'est pas juste de l'aspect visuel, c'est qu'il y a tout un environnement à gérer, difficile à maîtriser. Et notamment, il y a un fameux phénomène identifié dans les années 70 par un chercheur, justement un roboticien japonais, qu'on appelle la vallée de l'étrange. Mmh. Donc en anglais,
l'Uncanny Valley.
Donc parce que il est japonais, mais le terme Uncanny Valley, parce que la revue dans laquelle le terme a été popularisé était anglophone, quoi. Et alors, ce phénomène, c'est l'idée que face à un robot humanoïde, très ressemblant à un humain, au bout d'un moment, l'interlocuteur humain va éprouver un malaise. Alors que tout est parfait, visuellement, les yeux, la bouche, la peau. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose dans un robot de ce type qui trahit le fait que c'est un être artificiel. Et ça crée un malaise, parce qu'en fait, c'est pas une confusion, c'est pas du tout...
C'est pas psychologique.
Il y a une partie de psychologie. C'est pas que l'humain ne sait pas où se placer. Au contraire, c'est qu'il identifie qu'il y a un robot en face de lui, mais que ce robot lui ressemble quand même beaucoup. Et en fait, il y a plein de paramètres derrière tout ça qui sont encore aujourd'hui étudiés, et qui, en fait, ne se résume pas au fait au robot. C'est qu'en fait, ce phénomène peut très bien s'appliquer à, vous savez, à des avatars numériques. Je me souviens que quand le film de Spielberg, l'adaptation de Tintin, était sorti, qui est un film tout en motion capture avec des personnages numériques dont les mouvements et les expressions faciales sont ceux d'acteurs qui sont plaqués sur des personnages numériques. En fait, il y a eu des articles sur pourquoi ce film nous paraît bizarre, et donc vous avez les journalistes qui expliquaient le phénomène de l'Uncanny Valley. Donc ça peut s'appliquer, voilà, à des robots, à des personnages numériques, à des avatars dans des jeux vidéo, donc voilà, c'est assez global. On s'est rendu compte que ça ne concerne pas seulement l'apparence physique du robot, ça peut être aussi le fait que vous avez un robot humanoïde dans lequel vous allez tout de suite vous projeter, avoir aucun problème, sauf que quand ce robot va bouger, là on n'est plus du tout dans l'apparence, mais dans la gestuelle, quelque chose ne va pas aller. C'est qu'en fait, quand on voit un robot très humain, on anticipe, sans s'en rendre compte, qu'il aura des gestes aussi humains. Il aura un aspect très biologique. Mmh. Et tout d'un coup, vous voyez ce robot un peu saccadé ou qui n'a pas les mêmes réactions qu'un être humain aurait eu.
Oui, il y a une dissonance
entre
ce que notre cerveau s'attend à observer et finalement le comportement du robot.
Et on s'est aussi rendu compte que la voix aussi, il y a un effet uncanny valley dans la voix. C'est que tout d'un coup, ça ne va pas. Une voix apparaît humaine, mais finalement, il y a un truc qui trahit quelque chose. On s'est rendu compte aussi que ça marchait pour les robots animaux. Je vous engage notamment à regarder un épisode de la fameuse série Black Mirror.
Bien sûr.
Un petit épisode assez court qui s'appelle Metalhead. C'est juste une course-poursuite entre des humains pourchassés par des robots tueurs. Et le robot en question ressemble
à un chien.
Mmh. En fait, ce qui fait peur, ce n'est pas tant que le robot est tueur, c'est que la fluidité et le réalisme de ce robot est confondant, quoi. Mmh. Et ça fait en fait écho à un robot de Boston Dynamics aussi, qui s'appelle Spot. Et il y avait eu des vidéos où, pour montrer à quel point ce robot était bien paramétré, on voyait des humains lui taper dessus. Là, la démo, c'était montrer à quel point le robot se remettait vite sur ses pattes et retrouvait son équilibre, alors même qu'il avait pris des coups de batte de baseball, des coups de pied. Mais en fait, cette vidéo a beaucoup dérangé, parce qu'en fait, à un bout d'un moment, on avait l'impression vraiment qu'on faisait du mal à un robot, quoi. Oui. Il y a plein de choses qui se mélangent, et l'apparence humaine du robot n'est pas forcément un bien. Apparemment, on s'est aussi rendu compte que quand vous avez un robot humanoïde en face de vous, le malaise qui est généré n'est pas immédiat. Et en fait, s'il y a malaise, c'est parce que au bout de quelques millisecondes, l'interlocuteur humain se dit « Ah, il y a un problème ». Et en fait, le malaise vient du fait qu'on revient sur son jugement initial. C'est qu'on a d'abord pensé que c'était un humain, et puis tout d'un coup, on revient sur sa première évaluation. C'est un peu comme si on se rendait compte qu'on s'était fait avoir. Quoi.
Ouais, tout ça, c'est inconscient, évidemment.
Ouais, c'est inconscient, évidemment, tout ça se passe. Et donc voilà, donc il y a plein de...
Tu cites également une étude finlandaise qui pointe du doigt un point qui est assez intéressant, c'est que finalement, ce qui peut nous gêner dans le robot, c'est son regard.
Oui, exactement. Ces chercheurs ont mené une série de tests en mettant des participants humains, voilà, en l'occurrence, c'était des étudiants de l'université. Ils ont comparé leurs réactions quand ils étaient face à un humain et quand ils étaient face à un robot. L'idée, c'était de faire en sorte que l'interlocuteur, humain ou robot, soit il les regardait en face, soit il les regardait un peu de biais. La tête de l'interlocuteur était tournée à 65 degrés. Ils ont mesuré la réponse émotionnelle du participant. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont évalué avec des capteurs comment réagissaient les muscles faciaux, la réponse cutanée, le rythme cardiaque aussi, qui sont en fait des marqueurs d'une certaine réponse émotionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que quand le robot ou l'humain était face à eux, il n'y avait aucune différence dans la réponse émotionnelle. Ils réagissaient de la même manière, ils avaient la même réponse émotionnelle face à un humain ou face à un robot, pour peu que le regard qu'ils avaient en face était face à eux. Par contre, dès que le regard était un peu de biais, là, quelque chose qui n'allait pas.
Comme donc, il y a une espèce d'équivalence. Observé,
oui, hein, ils ne sont pas allés jusqu'à expliquer le pourquoi, mais c'était juste constater qu'un humain, face à un robot ou à un autre humain, pouvait avoir le même type de réponse émotionnelle, le même type de réaction. Comme s'il n'y avait pas de gradation, il n'y avait pas de hiérarchie émotionnelle entre un robot et un humain.
Et est-ce qu'on sait si les enfants sont aussi sujets à cette vallée de l'étrange, aussi qu'on appelle aussi vallée dérangeante? C'est vrai que tout à l'heure, j'utilisais en introduction l'exemple de mes enfants à moi. Pour eux, Alexa, c'est une personne. Elle est peut-être enfermée dans une enceinte, mais c'est une personne.
Alors, sur des enfants spécifiques, je ne me souviens pas d'avoir vu des études. Mais par contre, il y a une étude spécifiquement sur ces assistants vocaux où on mettait des familles en situation face à un Google Home, face à un Amazon Echo, 3-4 appareils comme ça, pour voir justement comment les familles réagissaient, et enfants y compris. Et dans certains contextes, on se rendait compte, en gros, qu'on interrogeait Alexa ou on réagissait à Alexa ou aux autres comme si c'était un ami de la famille, quoi. Mm. Et voilà, les enfants riaient avec lui ou s'adressaient à lui. Je dis lui, c'est l'assistant vocal, c'est le boîtier, mais comme si c'était un compagnon. Je n'allais pas dire de jeu, mais oui, il y avait cet effet, c'est un membre de la famille, quoi.
Le robot rentre dans notre domicile, on l'accueille sous la façon d'assistants vocaux qui prennent la forme d'enceinte ou de robots aspirateurs. Mais tout à l'heure, on parlait plutôt de robots d'accueil, de robots qu'on voit dans les banques, qu'on voit éventuellement dans les hôtels. Alors, c'est le cas, par exemple, de Pepper, le robot de SoftBank robotique qui a été embauché par une banque taïwanaise pour distraire les clients dans la file d'attente. J'ai également retrouvé un papier paru hier dans 20 minutes avec, pareil, le même robot Pepper, mais qui a été renommé pour servir dans un cabinet dentaire pour distraire l'enfant, le mettre à l'aise avant et après l'opération afin que, justement, il ne soit pas trop stressé et qu'il soit rassuré par tout ça, que cette expérience soit finalement positive. Seulement, ça c'est des expériences qui se passent relativement bien. Dans ton article, tu évoques aussi des désastres hein, qui sont similaires à ceux que peuvent produire. Alors j'ai retrouvé ça dans Iron Man, hein. Il a deux robots dummy, qui veut dire idiot en français, et you, donc toi, qui sont deux désastres ambulants dans son atelier.
Oui, tout à fait. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Il y a un exemple, moi je me souviens d'avoir fait un article il y a quelques années sur un magasin écossais qui avait mis en service un robot dans ses allées pour conseiller ou proposer des choses. Et en fait, c'était une catastrophe, quoi. Ils l'ont, entre guillemets, licencié. Parce qu'en fait, ça n'allait pas, ça faisait peur aux clients. Les clients avaient du mal à interagir avec. Enfin, ils se demandaient bien c'était quoi cette machine qui venait les solliciter. Au Japon, il y avait un robot qui était censé aider les clients dans un hôtel. Pareil, il n'y avait rien qui allait, ça ne marchait pas, il y avait plein d'erreurs. Le service assuré par le robot ne correspondait pas aux commandes faites par le client. Donc, pareil, on l'a débranché. Ce qui existe, par contre, c'est qu'on lance des robots dans les magasins, mais du coup, sans interaction. En gros, des robots qui vont repérer s'il y a des produits qui ont été renversés dans les travées, donc du coup, pour appeler les agents de nettoyage, repérer si les étiquettes sont aux bons endroits, sur les bons produits.
Bon, utilitaire. Ça existe.
Utilitaire, très utilitaire, et surtout en évitant une interaction ou alors le robot qui va proposer de scanner un code-barre. Quoi. Alors, le client, il fait un code-barre sur un robot mobile, par exemple, qui se travaille dans les allées. Mais le robot qui va proposer un service, interagir, proposer quelque chose, là, c'est très compliqué.
C'est plus complexe. Ouais.
C'est beaucoup plus complexe, ouais.
Cette complexité, on la retrouve dans le robot, mais on la retrouve aussi chez nous, puisque tout à l'heure, on parlait du malaise qui peut naître face à un robot. Mais on a aussi évoqué la question de l'empathie, puisqu'on peut nourrir de l'empathie pour des êtres qui sont finalement composés de boulons et de cartes à puces. Comment c'est possible ?
C'est très étrange. On voit ça dans les films, souvent. Voilà,
Wall-E. Hein.
Voilà, Wall-E ou les gardes des étoiles. Vous tremblez pour le petit R2-D2 qui se fait kidnapper. Bon, ça, c'est des choses de films. Donc, on se dit que c'est juste des films. En fait, dans des expériences de recherche en laboratoire, on s'est rendu compte qu'effectivement, les gens sont capables d'investir beaucoup de choses dans une machine, quoi. Et ça va même très loin. À un niveau très basique. Il y a des chercheurs qui avaient créé une situation décrite. Le participant n'était même pas mis dans une situation. C'est qu'on lui décrivait juste une situation où il y avait des humains, des robots dans un groupe, et puis une situation critique arrivait, un accident, quelque chose, où certains, des humains ou des robots, étaient en danger. Et donc, la question posée était lesquels vous sauvez, quoi, pour pouvoir en sauver un certain nombre, aucun, le plus possible. Et on s'était rendu compte qu'il y avait une tendance à sauver aussi bien les robots que les humains sans distinction. C'était pas si évident que les participants se disent « Ah non, ça c'est un robot, c'est bon, je peux le laisser, je peux le laisser sur le bas-côté. »
On laisse pas Bibi 8 dans un coin.
Non, non, tout ça, il faut qu'il y ait des conditions. C'est-à-dire que, par exemple, là, tout était raconté dans un récit. Voilà, vous n'aviez pas le participant avec un robot et des humains physiquement présents, mais on lui racontait. Et l'astuce, c'était de prêter des affects et donner une petite histoire. Le robot, il vient de là. Et on ne disait même pas que c'était un robot. Enfin, on comprenait que c'était une machine, mais on ne l'appelait pas robot. Par exemple, on lui donnait un prénom ou on lui donnait une lettre. Mais on ne disait pas, oui, la machine fait ceci, le robot est tombé.
On l'humanisait.
On l'humanisait un peu, sans vraiment le dire, quoi. Et donc, du coup, ça marchait comme ça. Et effectivement, certains participants étaient prêts à sauver le robot, peut-être même au détriment d'un humain. Ça, c'était ressorti de l'étude. Et les chercheurs eux-mêmes étaient étonnés.
On est prêt à investir émotionnellement dans des robots.
Et on investit émotionnellement et on investit aussi beaucoup de compétences. Et limite, c'est un petit peu plus, on va dire, gênant, voilà. Par exemple, on s'est rendu compte que, à peu près même style d'expérience que je viens de décrire, en gros, les participants ont des photos sous les yeux avec plein de personnages. Et donc, en gros, il y a plusieurs photos, il y a 15 personnes sur une photo, facilement dénombrables comme ça, de tête, en regardant. Et puis après, vous arrivez à des photos où il y a 5000 personnes. Et on disait aux gens, voilà, vous avez ces photos. Vous, quelle est votre évaluation du nombre de personnes sur la photo? Donc, les gens donnaient une indication. Là, il y en a 15, là, il y en a 27, etc. Et en deuxième temps, les chercheurs disaient aux gens, bon, alors, sachez que sur cette photo, un autre humain en a évalué tant et un algorithme en a évalué tant. Est-ce que vous maintenez votre évaluation première ou est-ce que vous vous rangez à l'avis soit de l'humain, soit de l'algorithme? On s'était rendu compte qu'il y avait une très nette tendance chez les gens à revoir leur jugement et à se fier à ce que, soi-disant, disait l'algorithme. Alors qu'en fait, dans l'histoire, il n'y avait aucun algorithme. Les chercheurs ont juste inventé cette histoire. Ils ne sont pas allés chercher un algorithme qui a compté le nombre de personnes. C'est juste le fait de dire, de présenter la situation. Mentalement, les gens investissent de la compétence dans un programme, quoi.
Et on va plus faire confiance, finalement, à...
On va plus faire confiance dans l'algorithme, y compris, et là, c'était le terme de cette étude-là en question, au bout d'un moment, on donne une réponse censément venue d'un algorithme. Or, la réponse est fausse. Et en fait, les gens choisissent quand même cette estimation. Bon, avec des nuances, mais voilà, quand même.
Il y a un autre point qui est intéressant toujours dans ce rapport qu'on peut avoir aux robots, c'est qu'on leur prête souvent une voix, et cette voix, elle est très, très majoritairement féminine, avec un biais qui est toujours de dire, bah oui, un robot est féminin, on va lui prêter des compétences, on va lui prêter une personnalité qui finalement n'existe pas, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, à la base, c'est effectivement pas un hasard du tout. Hein. Les prénoms, hein, Alexa, Cortana, Siri, même ceux qu'on a cités au début de notre entretien, Eva, Ameka, tous les noms féminins. Et effectivement, les voix de ces assistants sont souvent des voix féminines. À la base de ça, c'est parce que c'est un principe marketing. On sait, empiriquement ou à part des études, qu'il y a quelque chose de plus, on va dire, convaincant ou attirant chez le client, homme ou femme, hein, quand l'interlocuteur, on va dire, dans un cadre de consommation, tout simplement, est humain.
Oui, c'était déjà le cas dans nos GPS il y a 15 ans. Quoi.
Dans une première lecture, on se dit « Ouais, mais c'est parce que ça renforce le côté « la femme est là pour servir ». En fait, c'est un peu plus subtil. Il y a des études qui ont été menées, encore une fois, là-dessus, notamment de spécialistes en psychologie de la consommation, une Française d'ailleurs, qui m'a expliqué ça. Et elle explique qu'en fait, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la voix humaine féminine est perçue comme plus humaine. Non pas plus serviable ou plus compétente, mais plus humaine. Finalement, un homme renverra l'image d'un robot, quoi, d'une machine. Et donc, pour favoriser l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement dans ce genre de contexte, c'est-à-dire les interactions, on va préférer mettre une voix de femme. On sait comme ça que l'utilisateur va avoir plus de tendance à l'utiliser, plus en confiance, va poser plus de questions. Et ça, c'est très intéressant pour ces entreprises, parce que plus vous interagissez, plus les machines engrangent de la donnée, qui vont ensuite améliorer l'IA, etc. C'est paradoxalement un moyen de rendre plus humaine une machine.
L'autre façon de rendre humaine la machine, c'est de la faire dialoguer aussi.
Oui, tout à fait. Il y a à la fois le jeu de questions-réponses, mais qui peut être très mécanique. Et donc, tout l'enjeu, c'est aussi ce côté les interactions non-verbales pour les robots. Mais pour les assistants, on va essayer de glisser soit de l'humour, soit des petites interjections, des bonjours, au revoir, enfin voilà, quelque chose qui va au-delà du simple jeu de questions-réponses. Mais ce qui est très étonnant, c'est que certains refusent vraiment de faire ça, notamment Google. Google, son credo, c'est ne surtout pas faire oublier l'utilisateur qu'il est face à une machine. Et notamment, il y a eu quelques années, il avait justement travaillé sur l'idée d'une voix non genrée, d'une voix neutre. Donc, ni homme, ni femme, juste une voix de Google, quoi, de OK Google. D'ailleurs, il tient à garder le nom OK Google. Il y a le nom de la marque.
Ouais, et qui n'est pas un prénom.
Qui n'est pas un prénom, en fait. Et ça, c'est une volonté de Google pour tout ce qu'on peut reprocher à Google. Mais là, ils ont un souci de ne pas entretenir de confusion, quoi.
Mais d'ailleurs, toi, tu nous alertes aussi sur les biais et comment les sociétés... Alors là, je parle plutôt de biais cognitifs, hein, chez nous, la confiance qu'on peut prêter à des robots, parfois de façon un peu aveugle, et comment les sociétés derrière ces assistants vocaux, derrière ces robots, peuvent les exploiter.
Mais tout à fait. C'est que cette idée de confiance un peu accrue, voire exagérée dans les robots ou les algorithmes ou les IA en général, risque de nous faire oublier que derrière ces technologies, il y a des entreprises, effectivement. Il y a Amazon, il y a Google, il y a Microsoft. Et que si vous interrogez votre boîtier Amazon sur, je sais pas, qu'est-ce que je vais regarder comme film, qu'est-ce que je vais acheter comme livre, ça, il va vous en proposer, mais peut-être qu'il va vous proposer des choses qui l'arrangent lui, qui sont dans ses bases de données, qui sont des services que lui va vous vendre, va vous proposer. Donc là, on retrouve un peu des problématiques qu'on connaît un peu bien sur les
moteurs de recherche.
Les moteurs de recherche, voilà. Est-ce que Google, en gros, met pas en avant ses propres services quand on fait une recherche sur Internet dans son moteur? Là, c'est un peu la même chose. Et cette interaction avec une machine vaguement humanisée fait un peu écran, du coup.
Oui, c'est vrai qu'on prête une forme de rigueur ou d'impartialité, finalement, au robot.
C'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'il y a à la fois cette idée que l'IA est neutre, qu'elle va forcément faire le bon choix, parce qu'elle n'est pas soumise à de quelconques interférences, ce qui est évidemment totalement faux. C'est connu, démontré, parce que, encore une fois, derrière ces machines, il y a quoi? Il y a des humains. Il y a des bases de données qui sont constituées par des humains. Il y a ce qu'on appelle l'étiquetage de données qui est fait par des humains, donc en fonction de certains biais, en fonction de certains credos, de certains objectifs aussi. Et tout ça fait que le service qui va être délivré par ces machines ou ces assistants ne sera pas neutre non plus, quoi.
Ton conseil pour la suite, c'est méfions-nous.
Oui, mais c'est méfions-nous et surtout, sachons à qui on a affaire. Et là, je ne dis pas à qui on a affaire. On n'a pas affaire à Alexa, on n'a pas affaire à Cortana, on a affaire à Microsoft, on a affaire à Amazon. Donc oui, effectivement, il faut garder ça en tête.
Finalement, pour être accepté, est-ce que les robots ne doivent pas rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire des appareils intelligents, en tout cas avec une forme d'intelligence, mais limités à une seule fonction et qui ne cherchent pas à tout prix à nous ressembler?
Oui, c'est un peu l'illusion qu'on essaye de nous vendre, entre guillemets, mais qui est un peu la même chose qu'avec l'intelligence artificielle en général. C'est cette illusion qu'ils vont savoir tout faire. Pour l'instant, le monotâche, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fonctionne le mieux, quoi. Et à la fois, ça peut être efficace, et à la fois, ça va permettre de garder cette distance entre humain et robot. Ok, il sait faire qu'une seule chose, c'est une machine, mais en fait, il le fait bien. Donc, c'est pas plus mal.
Ouais, c'est ça, on reste vraiment sur une approche très utilitariste.
Ouais. Et pour l'instant, on en est encore un peu là, quoi. Les robots qui fonctionnent le mieux, c'est justement les robots en usine, quoi. Ce que j'ai appelé les cobots tout à l'heure. Après, les robots hospitaliers, en gériatrie ou en pédiatrie, c'est toujours un peu compliqué, quoi.
Fin du programme, vous pouvez mettre votre processeur en veille ou trouver la borne de recharge la plus proche. Au cas où il vous resterait un peu de jus, la logique robotique voudrait que vous ajoutiez 5 étoiles et un commentaire élogieux sur la page iTunes, Pocket Cast ou Spotify de 6ème Science. Je veux pas trop vous guider non plus, vous n'êtes pas des robots. À dans 2 semaines pour envoyer de la science et de l'intelligence dans tous les sens.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.